direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, là. On ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour mes tout petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Bonsoir! Bonsoir!
On peut se le dire, là, autour de la table, on a vraiment préparé un beau cabaret. Je pense qu'on va vous présenter quelque chose de formidable. Et comment dirait Mary Poppins? Elle dirait
supercalifragilistique.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Boy,
wow! Janelle!
Elle s'est pratiquée.
C'est mon enfance qui revient.
Bon, mais c'était un petit indice sur le thème de ce soir. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous, ben, un bref rappel de ce qu'est le cabaret des acolytes. On vous fait à chaque semaine un cabaret autour d'un thème choisi par les acolytes. Et ce soir, l'enfance de Janelle a parlé et c'est elle qui nous a proposé un thème, ce thème de ce soir. Je vais vous présenter le thème plus tard, mais on va faire un tour des acolytes en premier. Christine Gélina, Geneviève Proulx, Janelle Touchette et Juan Blasco. Alors, Christine, t'as passé une belle semaine?
Une superbe semaine, Jean-François. Puis avec notre thème, je dois vous avouer que j'ai revisité quelques souvenirs et j'ai même chanté à tue-tête dans la douche.
Merci beaucoup, Christine. Janelle, toi, t'as passé une belle semaine?
Magnifique, j'adore le thème.
J'ai cru que t'allais dire j'adore les sushis.
Pourquoi les sushis?
J'adore.
C'est une réplique d'un autre film.
Ah, ok, ok. Bon, j'ai pas la référence. Alors, merci beaucoup, Janelle. Juan, de ton côté.
Une superbe semaine, Jean-François, avec plein de petits signes que la situation mondiale va en s'améliorant et je dois dire que ça fait du bien.
Ben oui, ça fait effectivement du bien. Et on complète ce tour de table avec nul autre que Geneviève.
Alors oui, excellente semaine. Évidemment, j'ai bien aimé travailler sur notre thème et moi aussi, comme Christine, ça m'a emballé. Et j'espère que toi aussi, tu as passé une belle semaine, Jean-François.
J'ai passé une très belle semaine avec des airs. Et on va voir tout ça tout à l'heure, mais j'ai eu ces airs dans la tête, ces airs de comédie musicale peut-être un peu. Mais je reviens vers vous, les acolytes, dans quelques secondes, le temps de présenter ce thème à tout le monde, le thème de notre cabaret. Ce soir, on vous emmène loin de chez nous, au pays des grandeurs, dans la ville qui ne dort jamais, et plus précisément sur une avenue où pullulent les théâtres new-yorkais. Oui, sur cette avenue, mais aussi aux alentours, sur les rues avoisinantes. C'est la frénésie à l'ouverture des portes des 41 théâtres, sous les marquises illuminées et des affiches de spectacles grandioses. Cette avenue de New York est si célèbre qu'elle a, au travers du dernier siècle, donné son nom à tout un courant artistique et a contribué à faire de New York une des plus grandes capitales mondiales de la culture. Silence! Le rideau s'ouvre. Cette fois, ce n'est pas sur notre cabaret, c'est sur des airs de comédie musicale. Vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour de Broadway! Je me tourne vers vous, les acolytes. Alors, Christine, celle qui va tout au long de ce cabaret nous accompagner en musique. Christine, c'est pas le choix qui a manqué cette semaine. On s'est aussi fait aider de nos fans sur Facebook à qui on a demandé quelles étaient leurs comédies musicales préférées.
Mais en effet, j'en prends ça, puis ils ont été nombreux à nous répondre. Et je vous en donne quelques-uns. Rent, Starmania, Mamma Mia, Chicago, Hamilton.
Les Misérables aussi.
Les Misérables, Billy Idol. Mais oui, bien sûr.
Billy Elliot.
The Office, même que je ne connaissais pas. La mélodie du bonheur, assurément. Mm-hmm. On en a eu beaucoup.
Merci beaucoup, Christine. Alors, Janelle, pour ta part, toujours dans les faits divers et les faits inédits?
Oui, absolument. Je me suis un petit peu plus approfondie sur une pièce bien marquante dans les dernières années, mais je laisse en suspens. jusqu'à tantôt.
Bon, oui. OK. Geneviève, pour ta part, toi, tu vas nous faire découvrir la rue, un peu comme un touriste qui débarque à New York et qui visite Broadway pour la première fois.
Absolument. Jean-François, je vais vous donner quelques astuces afin que ce voyage-là, éventuellement possible, ne vous coûte pas non plus la peau des fesses, quoi.
Et Juan, toi, tu vas nous revenir sur les origines de cette avenue mythique.
En effet, Jean-François, je vais vous conter l'histoire de cette avenue. Vous allez être étonné de savoir comment tout ça a démarré. Vous allez voir qu'on part des Amérindiens à l'époque précolombienne jusqu'à Shrek the Musical actuellement à l'affiche, avec un petit détour par la toute première comédie musicale au 19e siècle. Mais on s'en parle dans pas long.
On s'en parle dans pas long. Merci beaucoup, Juan. Alors, et moi, cette semaine, je vous propose de faire la découverte des divas de Broadway et plus précisément de Judy Garland, oui, Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Si vous ne connaissez pas sa vie, vous allez être surpris par sa déchéance, un parcours que suit quelque peu d'ailleurs sa fille Liza Minnelli. Alors, je vous décris tout ça dans ma chronique tout à l'heure. Alors, ça démarre. Les acolytes, vous êtes prêts?
Mais
oui.
Oui.
Allô, vous êtes prêts? Go!
Oui, prêt! Prêt, pas prêt, on y va. Hein?
Et toi, es-tu prêt?
Je suis prêt. Le cabaret est ouvert sous le thème de Broadway. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries. Vous n'avez pas halluciné, vous entendez la gang qui chante ces airs bien connus, Christine.
Ben oui, c'est tiré du Roi Lion, de la comédie musicale, le Roi Lion, parce que aussi le film, mais ce qu'on écoutait, c'était de la comédie musicale.
Oui, merci Christine, on vient plus tard à toi pour d'autres chansons. Alors, deux mots pour vous dire que ce balado est rendu possible grâce à Balado Québec. On les remercie. Et le podcast est disponible sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. Alors, on poursuit ce cabaret et on ouvre pour une première fois. Je pense que c'est une première fois au cabaret. On ouvre avec Juan, cet architecte de l'histoire, notre architecte de l'histoire. Geneviève qui applaudit. Alors, Juan, de ton côté, alors, tu as découvert déjà du temps des Amérindiens que Broadway existait.
Oui, alors Jean-François, tout à fait, je suis vraiment resté surpris. Bien entendu, on ne parlait pas de Broadway à l'époque, mais bien de Wikasgek. On a donc une piste avec le même tracé qu'on connaît aujourd'hui qui va de la pointe sud de Manhattan jusqu'au Bronx au nord, donc à l'époque, précolombienne. Plus tard, quand les premiers colons néerlandais sont arrivés, ils se sont donc naturellement établis le long de cette piste sur une île vallonnée qui peu à peu a changé de nom pour Manahata.
Ah ouais.
Donc c'est colline en néerlandais, donc île vallonnée, colline.
Manahata.
Okay. Puis Manahato, qui a donné son nom à l'île de Manhattan. Donc notre fameuse piste Wikasgek, fut quant à elle renommée Broadway par les Néerlandais, ce qui signifie en néerlandais « avenue large », et Broadway qui est devenu avec le temps Broadway.
Oui, qui est quand même proche de l'anglais, hein, Broadway. Ouais.
Effectivement, ben, le néerlandais, l'anglais, c'est pas mal proche en effet. Donc, dans le jeune Manhattan, en 1811, le tracé quadrillé de la ville devient officiel et Broadway est la seule artère qui déroge à ce quadrillage, donc quadrillage des avenues nord-sud et des rues est-ouest. Il faut attendre 1823 pour l'ouverture du premier théâtre de Broadway, Columbia's Garden, qui en 1829 passe aux mains du producteur de café William Niblo, qui lui le renomme de façon très narcissique, Niblo's Garden.
À son nom.
Voilà. Exactement. Donc en 1866, c'est là où on peut assister à la première représentation de ce que l'on connaît aujourd'hui comme le style de comédie musicale de Broadway. Ça s'appelait The Black Crook, donc en français l'escroc noir. Et cette première représentation dura, tenez-vous bien, 5h30.
Oh là là! Oh my God!
J'espère qu'il y avait une entracte.
Il y a eu plusieurs entractes. Et absolument, plusieurs. Oui, plusieurs entr'actes. Ah, ouais. Et personne, en fait, ne s'est plaint de la durée parce qu'ils ont adoré le style. Il a fini par y avoir en fait 11 autres représentations pour être précis, et le tout a marqué le début d'une série de succès à la mode Broadway. Donc sur les 21 km de l'avenue, on trouve aujourd'hui une quarantaine de théâtres comptant chacun plus que 500 places, et à son apogée dans les années 20, mes chers acolytes, j'ai une question pour vous. Savez-vous combien de spectacles on pouvait voir chaque année sur l'avenue dans les années 20?
Un par jour, moi, je dis.
Un par jour, même des grosses productions. Un par jour, donc 365, comme?
Moi, je dis deux par jour. Fait que le double. Non, non. Donc, ne demandez-moi pas de calculer.
Un par mois, moi, je dis. Moi, je suis à deux.
Ouais, moi, je suis plus proche d'une cinquantaine, moi, je dis.
OK. Ben, en fait... C'est un peu moins qu'un par jour quand même, parce que c'est 200 spectacles par année.
Wow!
La bonne réponse.
Quand même!
Ça fait travailler du monde, hein?
Exactement. Mais on comprend quand même que Broadway devient une référence dans le monde entier, et c'est le rêve de tout acteur et chanteur d'en faire partie comme les plus grands, donc comme Grace Kelly, Edith Piaf, Audrey Hepburn, et même plus simplement Angela Lansbury. Notre détective du petit écran des années jeunesse 80-90, au Québec, on la connaît dans « Elle écrit au meurtre ».
Ah oui!
Arabesque, oui, pour nos amis français qui nous écoutent. Elle y joue le personnage de Jessica Fletcher. Et ben, elle aussi, elle a été à Broadway dans une comédie musicale. Elle a eu le rôle principal de Mam en 1966. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Broadway, c'est qu'y monter un spectacle, c'est extrêmement coûteux. Donc, mettons maintenant, monsieur Jacolite, si on prend une comédie musicale moderne, célèbre comme Shrek the Musical, à combien estimez-vous cette super production, le coût?
Je sais pas, une dizaine de millions.
100 millions.
Mon Dieu, 100 millions. Qui dit plus? Qui dit moins, Geneviève?
Moi, je dis 5 millions.
Et toi, Christine?
Je suis très, très mitigée parce que je me demande est-ce que des effets spéciaux ou est-ce que... Tu sais, avec effets spéciaux, 101 millions, sinon 99.
OK. Alors, vous êtes quand même pas mal bon parce que moi, j'aurais jamais guessé que ça pouvait coûter 25 millions de dollars. C'est quand même pas banal pour du théâtre, quand on y pense. Je me suis renseigné sur les prix aussi et j'avais les prix pour, en fait, assister à un show. J'avais lu que Hamilton, la comédie musicale, offrait certains billets à 1 200 $. Et en recherchant sur les sites officiels, j'ai pu voir qu'on parle de billets normaux de 270 à 349 dollars US la place, donc 465 dollars canadiens, pour une place parmi les chanceux, qui auront vu la comédie musicale Hamilton. On peut aussi voir qu'effectivement, le prix peut s'approcher, tout dépendant de la saison, de l'emplacement, à 1 000 US. Donc, on y arrive à notre 1 200 finalement. Mm-hmm. Donc, voir une comédie musicale sur Broadway, c'est un must quand on visite New York. Donc, tant qu'à vous y être déplacé, moi, je vous donne un conseil. Payez-vous donc ce petit luxe et n'oubliez pas vos vêtements pour vous mettre sur votre 36 le jour J.
Merci, Juan.
Ah, merci.
Un air mémorable, Christine.
Vous l'aviez reconnu, les acolytes?
Clairement.
Oh oui!
Des souvenirs d'adolescence. Pour moi, je salue Amélie Lheureux. On était allés ensemble voir le fantôme de l'opéra. Moi, je vous fais travailler, les acolytes, là, ce soir. Je vous pose un quiz. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qui est venu en premier, le film ou la comédie musicale?
Oh yeah, OK.
Êtes-vous bon?
C'est une bonne question.
Allons-y.
La comédie. Grease.
C'est Grease? Grease? La...
Grease.
Grease?
Qu'est-ce qui est en premier? Le film ou la comédie musicale?
Le film?
Le film.
Il me semble le film. Avec
la comédie musicale. Ouais. Tout le monde dit le film.
Envers et contre tous.
Je me suis dit que j'allais dire l'inverse de tout le monde.
1971, la comédie musicale. 1978, le film.
Oh.
La deuxième, The Sound of Music.
The Sound of Music. Ça, c'est la mélodie du bonheur, ça, hein?
La mélodie du bonheur, oui.
Le film. Moi,
clairement le film.
Ah oh, non, j'ai lu ça. Non, non, je l'ai lu cette semaine. Ah oh, non, c'est la comédie musicale.
Alors, effectivement, la comédie musicale en 1959 Et le film en 1965 avec Julie Andrews et Andrew, pardon, et
Ouais.
Christopher Plummer. Les Misérables.
Le
La comédie musicale. La comédie musicale, effectivement.
C'est comme un 100 ans avant aussi, hein? Écrit en 1862 par Victor Hugo. Rapidement, là, la comédie musicale a pris place et par la suite, en 2012, le film.
Ah ouais, OK.
Je vous en sors plus tard d'autres.
Wow.
Ah bon, c'est cool.
C'est cool, Christine.
C'est vraiment nice.
Yes.
Allez.
Let's get this guy in front of a crowd. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not.
Alors, on est tous en train de danser. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour ta chronique, Janelle, parce qu'on se tourne vers toi maintenant. Alors, tu nous fais découvrir les dessus, les dessous de Broadway avec des faits amusants.
Oui, je vais vous parler de Fun Facts et puis cette musique que vous avez entendue, My Shot, dans Hamilton. J'y reviens un petit peu tantôt là, pour Hamilton. C'est clairement mon coup de cœur des derniers, même des derniers mois, en fait. Là.
Elle nous en a tellement parlé.
Oui, c'est ça. Donc,
elle est fatigante. Vais...
Comment?
Elle est fatigante.
Oui, c'est ça. Donc, bon, d'abord, il faut savoir quelques petits fun facts. Il faut savoir qu'il n'y a pas de « i » dans Broadway. Et là, je ne fais pas allusion ici aux lettres du mot, mais plutôt aux lignes dans le théâtre. Donc, on va trouver les lignes de A à H et de J à Z. On ne trouvera pas de rangée I. Pourquoi?
Ça parce porte que malchance!
Partout. Le monde, il pensait qu'il achetait des billets pour la rangée 1. Donc, quand il arrivait, puis c'était la 9e rangée, ça causait problème.
Déception!
Trop drôle! C'est bon! C'est brillant quand même!
Oui, et donc ça a été intelligemment retiré pour éviter... de l'ostination, là, puis des gens mécontents. Ouais. Deuxième petite chose que je voulais... on a entendu le fantôme de l'opéra. En ce moment, là, on a une quatrième décennie de cette performance exceptionnelle. En 2018, on marquait le 30e anniversaire de la comédie Broadway du fantôme de l'opéra. Plus de 12 500 représentations devant 18 millions de personnes. Et 15 acteurs ont joué le rôle du fantôme à Broadway pendant ces 30 ans-là, et chacun d'eux ont eu un masque fait sur mesure.
Ah oui, j'imagine. Ah ouais. Ben oui.
Wow.
Parce qu'il était tout moulant, ce masque-là. Hein?
Ouais,
c'est vrai. Mmh.
Moi, j'avais peur.
Ah oui,
c'est peur. Hein?
Ça faisait peur. Ouais.
On a aussi entendu un peu plus haut, peu avant, le Roi Lion de Disney, donc le plus grand générateur d'argent, le plus lucratif de l'histoire de Broadway. En 20 ans de présence sur Broadway, le spectacle a rapporté 1,6 milliard de dollars avec une moyenne de 2 millions de dollars par semaine.
Janelle, j'ai lu cette statistique-là cette semaine et j'ai lu aussi une autre statistique qui venait à côté. 1,6 milliard, ça c'est à New York, mais la concession... Parce que ça a tourné partout à travers le monde, c'est 8 milliards le Roi Lion.
Ouais.
Mon Dieu.
Wow! Puis par ailleurs, Jean-François, on est allé le voir ensemble, nous, à la Place des Arts.
Ah, je m'en souvenais plus. Ben oui, c'est vrai.
Ouais, c'est le premier spectacle de Broadway à avoir remporté le milliard de recettes. Ouais.
Wow.
Donc, puis Julie Taymor, qui est la réalisatrice du Roi Lion, est devenue la première femme de l'histoire de Broadway à remporter le Tony Award du meilleur réalisateur d'une comédie musicale. Mm. Ouais. Hair, The American Tribal Love Rock Musical, produit...
Pratiquer, j'en ai
un petit peu. Un produit de la contre-culture hippie et de la révolution sexuelle de la fin des années 60 a été présenté sur Broadway en 1968, puis aussi repris en 2009. Et attention, ici, l'élément le plus controversé de cette pièce est une brève scène de nudité.
Oh, ouh là là!
Il y a 41, tantôt, dans le fond, Juan, tu en as fait mention, 41 théâtres sur Broadway à New York et seulement 4 sont réellement situés sur Broadway Street, The Winter Garden, The Roundabout, The Marquee and The Broadway Theater. Pour être considéré comme un théâtre de Broadway, les théâtres doivent avoir 500 places et doivent être situés entre la 40e et la 54e rue. De la 6e à la 8e, y compris Times Square. Donc, les autres, dans le fond, qui sont des off-Broadway, abritent entre 99 et 499 places.
Tu sais qu'en bas de ça, il existe encore des plus petits théâtres qui s'appellent des off-off-Broadway. Et souvent, c'est des acteurs de ces off-off-Broadway-là qui sont amenés à être produits dans le vrai Broadway.
Ah, c'est nice, je savais pas. La comédie musicale ayant remporté le plus grand nombre de Tony Awards, savez-vous, c'est laquelle?
Tony's Life.
Oh boy.
West Side Story.
Oh!
Non, c'est The Producers en 2001. Moi, je la connaissais pas. Non.
Moi non plus.
Donc, 12 Tony et 15 nominations. Et celle dont je vais vous parler là, Hamilton, 16 nominations et 11 Tony.
C'est notable. Hein?
Hamilton, An American Musical, est une comédie portant sur la vie du père fondateur des États-Unis d'Amérique, Alexander Hamilton, composée et écrite par Lin-Manuel Miranda, qui joue le rôle principal d'Alexander Hamilton dans la pièce, a été inspirée par la biographie écrite par Ron Chernow en 2004. Donc, je vous rappelle qu'Hamilton est connu parce qu'il y a, dans le fond, un grand apport à George Washington lors de la guerre de la Révolution pour se couper des liens avec l'Angleterre. Puis, il a été aussi à l'origine de plusieurs textes de la Constitution, de la guerre côtière et du système financier américain. Miranda a acheté le livre à la volée à l'aéroport avant de quitter pour un voyage en Mexique. Puis, en lisant ça, et ça l'a frappé. Il s'est imaginé un album de musique. Puis ça s'est rapidement transformé en pièce de Broadway. Ça l'a pris plusieurs années à écrire. Plusieurs pièces ont été écrites sur le métro de New York et plusieurs lieux historiques aussi que Miranda a visités pour s'inspirer. Mais moi, dans le fond, ce qui m'a plus frappé puis ce qui fait que j'aime le plus la pièce, c'est vraiment le fait que ça soit largement inspiré du hip-hop et du R&B. On a entendu tantôt, là, il y a des sons de soul là-dedans. Mm-hmm. Puis qu'elle emploie aussi plusieurs acteurs noirs pour représenter les pères fondateurs et les personnalités de l'école l'époque. Puis ça, là, ça, c'est jamais vu. Et je termine avec un fun fact. À l'une des premières, le vice-président de l'époque, encore vice-président, Mike Pence, a semé la controverse par sa présence. Il a été hué. Les acteurs ont voulu calmer la situation et ont sur scène dédié quelques mots assez gentils à Mike Pence, mais des mots centrés sur la diversité et l'unicité. Et puis, dans le fond, c'est un message sous-jacent de cette pièce-là aussi. Le président Trump a tout de suite répliqué avec des tweets sensationnalistes déplorant le manque de respect des acteurs, alors que ce n'était pas du tout ça l'intention.
Ah. Avec son bon tact.
Exact, exact. Fait que 2 actes, 48 chansons plus tard, ça a été un succès monstre. Puis même que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gardé Alexander Hamilton sur le billet de 10 $ américains, tellement que la pièce a été un succès monstre.
Wow.
Allez l'écouter. Sur Disney Plus, elle joue en ce moment.
Oui? Janelle, j'avoue que j'ai découvert Hamilton avec sachant que c'était un peu dans ta chronique.
Oui.
Et je chantais tout de suite.
Ouais, c'est nice. Hein?
Merci beaucoup, Janelle.
Ça me fait plaisir.
Christine!
Ah, oh, on écoutait la mélodie du bonheur. Là, je salue ma cousine qui nous a chanté ça toute notre enfance. Je continue.
Et Josiane, notre fan sur Facebook, il me semble que c'est elle qui a...
Ah oui, c'est vrai, Josiane.
C'est sa comédie musicale préférée.
Oui, exactement. Alors, Chicago, le film ou la comédie musicale?
Oh, on retourne au quiz. OK, d'accord, Chicago.
Oui.
La comédie musicale.
Le film, Juan, comédie musicale en 1975 sur Broadway. Quand même, une grosse différence. Et le film en 2002. Excellent film, d'ailleurs. Annie.
La comédie musicale.
Ah, ça serait bon. La comédie musicale.
Moi, c'est le film.
Le film, comédie musicale.
Le film.
C'est prêt. La comédie musicale en 1977. Ah. Le film en 82.
On a tellement écouté le film. Ça joue à Noël, hein, ça, ce film-là, il me semble.
Oui. Ouais, c'est un petit film de Noël, trop triste, là, trop. Ah, oh, trop adorable. Attention.
J'ai tellement écouté ça, puis ils ont fait un remake là, dernièrement avec. Mon Dieu, comment il s'appelle? Oh, j'ai un blanc. Puis, puis ma fille, elle a tellement accroché là-dessus il y a quelques années. Avec Jamie. Oh, aidez-moi. Okay,
non.
Non, ça. Pas qu'on veut pas, là.
Les générations se suivent et se ressemblent.
Mon dernier, West Side Story.
Jamie Foxx. OK, excusez.
Comédie musicale.
West Side Story.
Je m'essaye, là. Je suis comme un rebelle.
C'est vraiment après, là. Film 1961 et comédie musicale à 57. Geneviève, toi qui m'as fait découvrir le chant, parce que je suis une excellente chanteuse, ceux qui me connaissent.
Mais une excellente pianiste, par exemple.
Pourquoi vous riez?
J'ai chanté beaucoup avec toi, puis je voulais te faire plaisir avec la prochaine chanson.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
C'est vrai que Broadway a inspiré, et par ses comédies musicales, même des talents d'ici. Et c'était Michel Berger et Luc Plamondon.
Tout à fait, dans Starmania. Le Monde des Stones, chanté par Fabienne Thibault, cette version.
Mm-hmm.
Très beau.
Merci.
Oh là là, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. En fait, j'ai fait au cégep un peu de Starmania moi-même. Je suis pas professionnelle, c'est juste par plaisir. Et j'ai eu la chance de jouer avec le beau-fils de Jacques Parizeau à l'époque. Et j'ai donc pris du champagne avec Jacques Parizeau après nos représentations. Donc, je suis émue là en ce moment. Ça me rappelle plein de choses, Christine. Et c'est sûr que ça me rappelle aussi quand on s'amusait ensemble. Là, tu m'accompagnais tellement bien. On faisait qu'une.
C'est vrai.
Geneviève, remets-toi de tes émotions parce que c'est ton tour au cabaret. On poursuit ce cabaret autour de Broadway. Et vraisemblablement, on ne peut pas aller aujourd'hui à New York et on ne pourra pas y aller très prochainement. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste les frontières qui sont fermées, il y a aussi les théâtres et tous les spectacles sont suspendus jusqu'au 30 mai 2021. Mais pour ta chronique, Geneviève, tu vas nous transporter à New York et tu vas nous faire vivre Broadway comme si on y était.
Ben oui, pourquoi pas? Hein? On va voyager ensemble à peu de frais. Je vais vous donner aussi des petites astuces parce qu'à un moment donné, ça va se passer tout ça. Là. Je commence avec l'avenue Broadway, traverse littéralement Manhattan, de la pointe sud nommée Bowling Green, en diagonale jusque dans le Bronx, comme on a mentionné, puis tout au long des rues et des avenues qu'elle rencontre. En perpendiculaire, elle conçoit des lieux publics extrêmement rassembleurs. Hein? On en a parlé aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est plus aux alentours, finalement, de Broadway qu'on trouve les Broadway Theater que sur Broadway directement. Fait que ça, c'est intéressant quand même. Si vous séjournez alentour de Times Square, vous avez le kiosque TKTS, alors le Tickets Booth, pour acheter vos Broadway à prix réduit, se trouve vraiment en plein Times Square. C'est merveilleux, ça ouvre en début PM, on se rend là, on voit toutes les productions de Broadway affichées devant nous, puis on a également les réductions associées, parfois 30 % 40 50 % de rabais, alors on économise encore une fois. J'avoue qu'il faut quand même s'armer un brin de patience
un
et
peu,
il faut
ouais.
attendre un peu. Hein?
Oui, des fois, c'est long, les files d'attente là-bas.
Allez-y au début de votre séjour au Ticket Booth si vous allez être capable d'avoir votre Broadway. Toujours dans Times Square, on se trouve là-bas, tout ça. À un moment donné, comme vous me connaissez si bien, il faut casser la croûte. Mm-hmm. Alors, quoi de mieux que de jumeler bouffe et comédie musicale?
Un petit restaurant de Martin Picard.
Voilà, on l'a plugué. Encore
écoute,
une fois.
Moi, je l'exporte n'importe. Moi, je pense que Martin Picard a sa place partout. OK?
Mais c'est pas de ça que tu veux nous parler.
Non. En fait, je vous propose plutôt une visite à une institution célèbre, le Hélène's Stardust Diner. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez ça.
Oui, moi, je connais. Je suis allé.
Moi aussi, je connais. Ah, mais oui. C'était plein. Quand j'ai voulu aller, c'était plein. Je ne pouvais pas.
C'est quoi? Oh! C'est quoi?
C'est littéralement un diner qui nous permet de vivre un Broadway et de mangiare en même temps. Hein? C'est ça qui se passe. C'est vraiment extraordinaire. Puis c'est une ambiance incomparable.
Tu manges dans le théâtre? En fait, c'est un restaurant et la scène, c'est le restaurant.
Ah! Oh.
C'est ça. Écoute, les serveurs se promènent. C'est eux qui chantent. Mais bon, c'est sûr que je vais vous en parler un peu, mais il faut s'armer de patience aussi, hein, OK? Parce que malheureusement, cette légende ne prend pas de réservation, OK? Fait que ça veut dire que tu arrives là, que tu fais la ligne. Mais moi, j'ai un truc pour vous, OK? Ramassez-vous en gang.
Oui.
Puis là, sur Times Square, là, il y a bien des magasins d'ouvert qui, parfois même jusqu'à 2 heures du matin. Fait que relayez-vous dans le fil, puis au pire, mettons qu'il y a une avancée rapide, soudaine, ben, vous avez juste à vous communiquer, vous texter, puis « Hey, viens-t'en, ça avance, tu sais, ça finit là. » Fait que ça peut aider à passer le temps, parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai entendu que ça peut aller jusqu'à 15 heures.
Et nous, on avait attendu 4 heures, je me rappelle. Puis effectivement, on avait fait des magasins. On était 6, là, puis c'est ça.
Mais est-ce que ça vaut la peine, 4 heures?
Ça vaut la peine, parce que tu commandes ton plat arrive, puis là, t'as quelqu'un qui arrive, il t'amène ton plat, puis là, d'un coup, il sort un micro, puis il commence à chanter, mais il est juste à côté de toi, là.
Mmh. C'est quand même drôle, faut que tu prévois un petit lunch pour aller chercher un lunch.
À moins que tu aies un appartement sur Times Square.
Oui, c'est ça. Mais Christine, je te rassure, tu as bien raison, par exemple. Ça, c'est une femme avertie, elle est très pratique.
Une collation dans ma sacoche.
On reconnaît la maman.
Mais c'est sûr que Times Square est aussi bondé de plein de petits restaurants comme ça. On peut prendre n'importe quoi, un petit sandwich sur le pouce ou même les genres de food truck et tout ça. Il y en a tellement là, à New York, les petits kiosques, là, hot dog et compagnie. Alors, bonne expérience.
Merci beaucoup. De New York, on se transpose dans une autre ville. Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. All that jazz.
Ah oui, serré de la comédie musicale Chicago.
Oui, merci Christine. Alors cette semaine, moi, je me suis intéressé aux divas de Broadway, mais plus précisément sur Judy Garland. Oui, cette Dorothy dans Le Magicien d'Oz qui est devenue... si vous ne le saviez pas, cette star déchue par l'alcool, mais surtout par les médicaments. Alors, j'ai lu pour vous cette semaine Judy Garland, Splendeur et chute d'une légende de Bernard Tessier aux éditions Archipel. Le parcours de Judy Garland est incroyable, plein de rebondissements, mais surtout de drames et de tragédies. En lisant ce bouquin, la gang, on se croirait littéralement dans une comédie musicale. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, on a fait un musical avec sa vie et ce musical s'appelle End of the Rainbow. Et ce musical a d'ailleurs inspiré le film Judy, dans lequel Renée Zellweger a gagné l'année dernière l'Oscar pour la meilleure actrice.
Oh, elle a gagné un Oscar.
Mm-hmm. Oui.
Elle est tellement bonne.
Est-ce que vous l'avez vu ce film-là?
Non.
Oui, moi, je l'ai vu récemment.
Il faut le voir. C'est magnifique et sa prestation à Renée Zellweger est incroyable. Alors, je reviens un peu au livre « Les acolytes ». Alors, la star déchue qui est Judy Garland est est devenue incontestablement la reine du musical, de la comédie musicale. C'est oui, sur film. Bon, c'est sa fille, Liza Minnelli. Si vous ne saviez pas, sa fille, c'est Liza Minnelli, est indéniablement une diva de Broadway avec ses nombreuses récompenses aux Tony Awards. La mère, c'est moins évident parce que elle s'est produite sur Broadway, mais les fins connaisseurs sauront qu'elle n'a pas participé à des comédies musicales sur Broadway. Elle a fait des présentations en tant que des shows en tant que Judy Garland, mais pas dans des comédies musicales.
C'était le Judy Garland Show, mais c'était pas...
Exactement. Mais sa contribution à la comédie musicale au cinéma est indéniable, puis ça transcende dans Broadway. À Hollywood, sa vie débute à 3 ans. Et c'est à 16 ans que... C'est à 16 ans qu'elle est...
Et là!
C'est à 16 ans qu'elle est recrutée par les studios MGM et elle va avoir son premier contrat avec le magicien d'Oz. Et par ailleurs, c'est dans ce tournage-là qu'on va lui demander de prendre des médicaments. Et c'est le studio qui va lui prescrire les premiers médicaments pour qu'elle puisse dormir parce qu'elle avait des insomnies. Et
à 16 ans.
Ouais, hein? Ouais,
puis on voit très bien ça dans le film d'ailleurs de sa vie, comme tu le mentionnais tantôt.
Mm-hmm. Après Le Magicien d'Oz, elle va connaître le succès, mais les médicaments auront la peau de sa réputation à Hollywood. Elle va devenir très instable dans les productions. Trop d'amphétamines vont être prescrites par les studios, toujours. Et c'est le début d'une descente aux enfers. Elle a reconnu plusieurs mariages très difficiles sur cinq maris. Elle va en surprendre 2 entre les bras d'un autre homme, dont le père de Liza Minnelli, Vicente Minnelli.
Et
elle va délaisser Hollywood après son licenciement des studios MGM parce qu'elle est trop instable et sa faillite aussi. Elle va rebondir à New York et c'est là qu'elle va faire quelques spectacles à New York, mais les médicaments encore auront presque sa peau. Les producteurs sont très froids à l'idée de l'embaucher parce qu'elle ne se présente des fois carrément pas à ses propres représentations. Les derniers temps de sa carrière, elle les a passés à Londres parce qu'elle a quitté New York. New York ne la voulait plus, elle ne voulait plus New York. Et sa dernière représentation, elle l'a faite par contre à New York parce qu'elle est revenue pendant un court séjour. Alors, le 15 juin 1969, elle assiste à un concert d'Anita O'Day dans un club de jazz de Greenwich Village. Et dans la tradition des jam sessions, Anita invite Judy à les rejoindre sur scène pour chanter « Day in, day out » et la fameuse chanson « Over the Rainbow ». Alors, elle ne se reproduira plus jamais sur scène après. Elle retourne à New York, à Londres. Et elle est très maigre, famélique, les jambes rachitiques. Et elle va mourir une semaine plus tard d'une overdose de barbiturique.
Aïe, aïe, aïe.
C'est triste, hein, cette histoire.
Lire le livre, c'est ça. C'est comme lire une comédie musicale un peu triste parce que sa vie est triste. Avant de vous laisser, il faut que je parle de Judy Garland comme étant une icône gay. Si vous ne le saviez pas, c'est une icône gay. Liza Minnelli aussi. Et saviez-vous, j'ai appris ça en lisant le livre, je ne savais pas d'où venait le drapeau gay arc-en-ciel. Donc, ça provient, c'est un hommage à sa chanson fétiche « Over the Rainbow » que le graphiste américain Gilbert Baker a créé en 1978, le Rainbow Flag, à l'occasion de la parade gay de San Francisco. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'il a donné sur cette chanson « Over the Rainbow ».
Qui maintenant est utilisé pour « Ça va bien aller
». Mais il n'y a pas de drapeau pour ça va bien aller, c'est juste le rainbow.
C'est ça. Je vous laisse. On va rire un petit peu plus. Je sais c'est quoi la prochaine chanson que Christine nous a mise sur la liste. Et ça parle des Munchkins dans le film du Magicien d'Oz. Et je vais vous lire un extrait du livre de Judy Garland parce qu'elle parle des Munchkins. Pour incarner les Munchkins, le studio a fait appel à 120 nains venus du monde entier. Hébergés au Culver City Hotel, ils sont incontrôlables. Ils se bagarrent à coups de couteau. Ils se glissent sous les jupes des femmes. On ne les trouve jamais quand on a besoin d'eux. Judy dira plaisamment que les agents de sécurité du studio devaient les rattraper avec des filets à papillons. Ils ont repris part à des orgies à l'hôtel, racontera Leroy. Tout ce qu'on peut imaginer de sexuel, ils l'ont fait. L'un d'eux n'hésite d'ailleurs pas à proposer à Judy de sortir avec elle.
Oh my God! On dirait que j'ai pas la misère à l'imaginer.
On va écouter le Magicien d'Oz différemment, je pense.
Hein? En effet.
Allez! Christine, qu'est-ce qu'on écoutait?
Ah, Follow the Yellow Brick Road, The Wizard of Oz.
Mm-hmm. Alors, c'est tout un cabaret, hein, la gang?
Ben oui. Ben,
oui. Oui. C'est déjà la fin?
Non.
Oh non!
Il reste un petit bout. Patientez. Alors, le Québec n'est pas en reste dans les comédies musicales. On a entendu tout à l'heure Starmania. Mamma Mia, Footloose, Mary Poppins, Fame. À chaque année, dans le cadre du festival Juste pour rire, Serge Postigo nous propose une nouvelle production. En juin 2020, la comédie musicale Kinky Boots devait être présentée pour la première fois en français en Amérique du Nord. Cette œuvre n'aura malheureusement pas eu lieu à cause de la COVID, bien entendu. Est-ce que Serge Postigo va récidiver en 2021, on lui souhaite. On nous le souhaite également.
On nous le souhaite.
Je me le souhaite. Ce serait un très beau cadeau de Noël ou d'anniversaire pour ceux qui m'écoutent.
C'est un peu une énigme. D'ailleurs, son contrat se termine avec Juste pour rire l'année prochaine, d'ailleurs. Finalement, il n'y a pas juste pour rire, la troupe Québecissime et la Place des Arts se sont unis pour présenter en webdiffusion le spectacle Décembre, cette grande fresque musicale du temps des fêtes dans sa distribution originale. Alors, c'est à ne pas manquer si vous voulez acheter des billets, ils sont en vente, c'est du 19 décembre au 2 janvier et c'est au coût de 35 $ sur le site de la Place des Arts, c'est en webdiffusion. Eh bien, là, vous l'entendez, la petite musique de la fin.
Mm.
Voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager à New York autour du thème de Broadway. J'ai vraiment apprécié ce cabaret avec vous, la gang. Si vous avez des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, facebook.com/ le cabaret des acolytes. Et je le dis à chaque fin d'émission, si vous nous écoutez, si vous nous avez écoutés, si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout, mais faites un pas de plus et allez aimer notre page Facebook. On aime vous lire, on aime vous écouter. Et voilà, ben un petit mot de la fin, on fait peut-être un dernier tour de table. Juanito, est-ce que tu as un mot de la fin?
Oui, alors en fait, je voulais me porter un petit peu à la défense des nains. Si vous croisez un nain après avoir vu Le Magicien d'Oz, soyez gentil et faites-lui un sourire.
Tu trouves qu'on s'est moqué des nains?
Non, mais...
Ah, bon, on s'en excuse aussi, on s'en est moqué. On se moquait des munchkins. Geneviève, pour ta part, un petit mot de la fin?
Moi, je vais vous dire « Wicked ». Donc, si à un moment donné, on a choisi une comédie musicale « Wicked », justement, pour rendre hommage à... Judy Garland, et également, je vais dire, Starmania. Ben c'est oui. Tout ce que j'ai à dire.
Merci beaucoup. À toi, Janelle, tu as un petit mot de la fin?
Oui, et moi, j'ai lu dans mes fun facts là, que Judy Garland, il paraît que son fantôme est dans l'un des théâtres de Road. Plusieurs célébrités, leurs fantômes sont dans les théâtres, mais il paraît que Judy Garland, elle est tannante comme fantôme dans son théâtre.
Ouais. Tannante.
Oh.
Bon, Christine, un petit mot de la fin.
Des fois, il y a des soirées, on a un billet, là, mais avant la COVID, en fait, là, on avait un billet de spectacle, puis ça ne nous tente pas, puis on est fatigué, puis ça ne marche pas. Puis, en fait, moi, il y a une soirée que je suis allée avec mes tantes, avec ma maman, avec mon frère, puis c'est une des plus belles soirées de ma vie. Je suis allée voir ma mamie, hein, puis j'ai chanté toute la semaine. Oh! Je vous invite à revoir vos comédies musicales préférées. Écoutez le disque, vous allez voir, vous retombez dans quelque chose de très, très positif.
Oui, c'était un beau spectacle, oui.
La musique, quel beau remède.
Je vous remercie, la gang. Ce podcast est une production Fort Talent. Ont participé à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proulx et Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina. Et on se laisse, la gang, sur cette réflexion tirée tout droit de la comédie musicale la plus payante de tous les temps, Le Roi Lion. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata!
Bonne semaine,
la gang!
Bonne semaine!
Bonne semaine.